Et on revient sur ce sommet européen à Salzbourg, en Autriche, puisque c'est l'Autriche qui préside l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année. Un sommet informel, mais un sommet important pour acter un certain nombre de divergences sur l'immigration et puis sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Vous êtes président de la branche française du mouvement européen qui milite pour la construction européenne. Vous êtes consultant en affaires européennes. Alors on va commencer par le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, programmée officiellement le 29 mars prochain. Le temps presse parce qu'il y a toujours pas d'accord. Le sujet hier soir a été abordé lors du dîner entre les 28 chefs d'État et de gouvernement, dont la première ministre britannique Theresa May. Les discussions, elles se poursuivent aujourd'hui sans Theresa May, toujours pas d'accord. Chaque camp, Londres d'un côté, Bruxelles de l'autre, reste sur ses positions. Qui devra céder, à votre avis?
Sur le Brexit, il faut mettre en œuvre la décision du peuple britannique, hein, qui a décidé de quitter l'Union européenne. Il y a un calendrier qui est fixé, il y a des accords qui sont en train d'être forgés en vue du Conseil européen d'octobre et de la sortie, donc comme vous l'avez dit, fin mars 2019. Mais il y a des tensions, évidemment, des intérêts divergents, une sorte de dramaturgie aussi un peu shakespearienne. Qui devra céder? Je veux dire, les deux, mais surtout les Britanniques, qui ont déjà d'ailleurs beaucoup cédé, hein, par rapport à ce qu'ils voulaient au tout départ. Ça a entraîné des clarifications politiques chez eux, hein, le départ de Boris Johnson notamment. Je pense que les Européens ont à cœur de faire les efforts nécessaires dans la dernière ligne droite pour arriver en octobre et plus probablement en novembre à la conclusion d'un accord de sortie, hein, notamment lié au budget, au sort des ressortissants, à l'adoption d'une période de transition jusqu'à fin 2020, ce qui au fond du coup ne changera pas grand-chose puisque les Britanniques resteront au moins pendant une période transitoire dans l'état actuel de leur appartenance. Et puis, j'allais dire, dresser les grandes lignes de la relation future. Mais c'est là-dessus qu'il y a de grands, grands désaccords. Peut-être qu'ils s'en sortiront en étant suffisamment vagues dans la déclaration finale qui devra être adoptée donc d'ici octobre et novembre.
En même temps, il y a cette question très concrète de l'avenir de la frontière irlandaise entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. L'Irlande du Nord, donc, qui fait partie du Royaume-Uni, qui va quitter l'Union européenne, et l'Irlande qui reste évidemment dans l'Union européenne. Comment on peut résoudre cette équation qui semble absolument impossible?
Oui, il faut être extrêmement créatif. Vous avez raison, c'est le point dur, hein, ce qu'il reste, la pierre d'achoppement. C'est très difficile de le faire. Il va falloir trouver des solutions, je dirais, créatives, plus ou moins satisfaisantes, avec par exemple cette idée qu'il y a, il y a une frontière, mais ce n'en est pas vraiment une, et qu'en tout cas, s'il y a des contrôles qui doivent être faits, des contrôles ponctuels, qui seraient faits non pas seulement par des Européens, mais sans doute aussi par des Britanniques, et qu'au fond, tout serait fait dans un esprit de confiance mutuelle, pour empêcher en effet la réapparition d'une frontière entre les deux Irlandes, même si ça serait une conséquence directe de la décision souveraine du peuple britannique. Je pense qu'ils trouveront, ils sont en train de chercher et qu'ils trouveront une solution en demi-teinte qui permettra au moins, hein, pendant la période de transition, de continuer à laisser une fluidité entre les deux Irlandes.
Pour comprendre précisément les craintes britanniques sur cette question, le Royaume-Uni redoute à terme une union des deux Irlandes. C'est un peu ça l'idée?
Oui, bien sûr, parce que les Européens ont dit, Michel Barnier et les Européens, nous, la solution, on la trouve sans aucun problème. L'Irlande du Nord reste dans le marché unique, reste dans l'union douanière. De sorte qu'en réalité, la frontière passe en mer d'Irlande, hein, entre le reste du Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Mais les Britanniques ne peuvent pas l'accepter parce que ça rapprocherait les deux Irlandes et au fond, ça les rendrait plus près que l'Irlande du Nord du Royaume-Uni. Donc il y a un enjeu de souveraineté, d'identité qu'il faut qu'ils traitent. C'est pour ça que sur cette base, il va falloir faire en sorte que cette frontière ne réapparaisse pas tout en étant virtuel et tout en laissant aux Européens tout de même la possibilité de contrôler ce qui peut se passer de part et d'autre, une frontière qui n'en était plus une, mais qui le redevient parce que les Britanniques décident de quitter l'Union européenne.
Alors tout à l'heure, Yves Bertoncini, vous avez parlé d'une dramatisation shakespearienne dans ces négociations. Dans l'histoire de la construction européenne et de l'Union européenne, c'est comme ça, finalement, dans la crise qu'on arrive à débloquer au dernier moment les problèmes?
Oui, c'est souvent le cas, à condition qu'il y ait une volonté de les débloquer, parce que bon, pour ce qui est du Brexit, il y a une nécessité, hein, je veux dire, le compte à rebours est enclenché, il va bien falloir faire quelque chose pour conclure un accord, parce que faute d'accord d'ici le 29 mars, et en réalité un peu avant, hein, le temps que l'accord soit ratifié, là, ça serait catastrophique. Donc je dirais que là, il y a une incitation à agir et à converger s'il y a une bonne volonté de part et d'autre. En revanche, sur l'autre sujet évoqué à Salzbourg, la crise des réfugiés, la crise migratoire, là, on peut se demander, hein, avec Donald Tusk, qu'il a dit clairement, hein, le président du Conseil européen, qu'il y a une vraie volonté d'aboutir. Parce qu'au fond, en dépit du fait que la crise migratoire est très largement endiguée, très largement derrière nous, malgré quelques arrivées spectaculaires, hein, sur des bateaux surpeuplés, eh bien, il y a des dirigeants politiques qui prospèrent, au fond, en attisant les braises de cette crise. Et donc là, la dramaturgie, oui, il y en a, mais ce n'est pas une dramaturgie qui a pour but, au dernier moment, de trouver un compromis européen. Je pense que malheureusement, sur ces sujets migratoires, l'esprit de compromis a un peu déserté certaines capitales nationales.
Mais alors comment on peut résoudre cette question? Est-ce qu'on peut imaginer une Europe à la carte sur cette question migratoire?
D'abord, sur les enjeux migratoires, il faudrait davantage de vérité, hein, sur la nature des flux. Bien sûr qu'il y a une angoisse identitaire européenne, hein, nous avons une démographie chancelante, il y a une pression migratoire. Bien sûr que d'autre part, il y a une crise des réfugiés en 2015-2016, hein, il y a eu un flux massif qui a attisé les craintes identitaires, notamment en Europe centrale, pas seulement. Il faudrait dire la vérité déjà sur les flux aujourd'hui. Il n'y a plus de flux migratoires massifs. Il faudrait communiquer correctement et que tous les responsables politiques le fassent plutôt que d'entretenir des fantasmes. Il n'y a pas d'afflux massif de réfugiés, y compris par exemple dans un pays comme la France. Mais tout se passe comme si Viktor Orban se complaisait, hein, je vais le citer, le Premier ministre hongrois, dans cette idée que voilà, c'est une forteresse assiégée, la Hongrie, et s'il n'était pas là, tous les Africains et tous les musulmans viendraient s'y installer, ce qui est évidemment tout à fait faux. Ils avaient traversé la Hongrie pour se rendre en Allemagne et en Europe du Nord. Et donc, on a une situation de blocage, d'abord liée à la description de la réalité, et puis ensuite, évidemment, face à cette réalité, quelle solution? Il y a une forme de consensus, hein, sur l'idée d'agir à la source, de mieux protéger les frontières de l'Union européenne, de renvoyer les migrants économiques illégaux, hein, qui ne doivent pas venir comme ça. Où ça bloque encore, c'est sur est-ce qu'il faut accueillir les demandeurs d'asile? Et oui, si oui, comment les répartir entre les pays? Là, c'est vrai qu'il y a de réels blocages qui renvoient à des divergences politiques fortes, mais qui sont de plus entretenues et avivées par des personnes comme M. Orban ou M. Salvini.
Merci Yves Bertoncini. Je rappelle que vous êtes consultant en affaires européennes et président en France du Mouvement européen.